Emmanuel et Joseph Vintrinier, Les Canuts. Première partie, chapitre 1. De toutes parts, des groupes d'ouvriers arrivaient sur la place de la Croix-Rousse et, peu à peu, se formaient en cortège. En camisole, nu-tête, les femmes étaient accourues pour voir. « Où donc va tout ce monde ?» interrogea la mère Dénégris, s'arrêtant stupéfaite. « À la préfecture ?» répondit une femme. « Ils vont réclamer le tarif !» À la pensée que tant d'hommes allaient traverser la ville et faire une manifestation, la mère Dénégris eut un frisson de peur. Elle joignit les mains et, levant les yeux au ciel, avec un mouvement qui lui était familier, « Ah, mon Dieu » murmura-t-elle d'une voix courte. « Hé, pauvre dame !» reprit l'autre femme d'un ton traînard. « Que voulez-vous donc ? Ça va si mal, les affaires. Il faut bien réclamer. Des fois, le gouvernement fera quelque chose. » « Dieu vous entende !» conclut la mère Dénégris, dont les bons yeux bleus cendrés clignotaient avec épouvante. Un drapeau tricolore, porté par un ouvrier, venait d'apparaître sur la place de la Croix-Rousse, à la tête d'un nouveau groupe de tisseurs. Une rumeur plus vive circula dans la foule, d'où partirent quelques applaudissements. Peu à peu, un mouvement se fit dans les groupes, qui commencèrent à s'ébranler, et le drapeau prit la tête du cortège. Endimanché, l'air soucieux, l'allure calme, les tisseurs emboîtèrent le pas. Devant les maisons, les vieux, voyant se dérouler la longue file humaine, échangeaient leurs impressions. C'était un événement. La Croix-Rousse était si tranquille d'ordinaire. Depuis la Grande Révolution, les ouvriers avaient travaillé paisiblement. Les affaires avaient prospéré sous la Restauration. Il y avait eu un peu d'aisance et on avait pu économiser quelques sous. Mais à présent, ça n'allait plus. Les salaires étaient si réduits que les métiers battant du matin au soir donnaient à peine du pain. On ne pouvait pourtant pas se laisser mourir. Puisque les affaires avaient marché dans le temps, elles pouvaient marcher encore. Si l'ouvrier ne gagnait plus sa vie, c'était bien sûr la faute des fabricants, qui voulaient trop gagner et abusaient du pauvre monde. Et l'hiver qui allait commencer serait encore plus dur que les derniers mois. On avait bien fait de s'entendre pour aller à la préfecture.
On dit que le préfet est un homme très juste, insinua la mère Dénégris, toujours haletante d'émotion.
Libéral, on le dit,
rectifia d'une voix nasillarde l'ancien instituteur Bouvet.
Libéral peut-être, mais c'est un bourgeois comme les autres. Comment voulez-vous qu'il donne tort aux fabricants?
Et ces vieilles gens sans idée, la tristesse au visage, les femmes, les yeux rouges de larmes, répétaient encore les mêmes plaintes monotones, les mêmes cris de misère qui, depuis des semaines, retentissaient dans tout ce grand quartier peuplé de canuts, à tous les étages de ces hautes maisons pleines de ménages d'ouvriers. Les manifestants étaient partis 300. À la porte de la Croix-Rousse, ils étaient 400. Aux pierres plantées, 500. Chaque rue déversaient des hommes au passage. Ils accouraient en longues lévites noires ou marron, en blouse, en tricot de laine. C'était un pêle-mêle de chapeaux de soie démodés, de feutres mous, de casquettes. De vieux canuts, rasés de frais, avec de courts favoris, le col de la chemise sciant l'oreille, portaient l'ancien habit bleu à pans étriqués et à larges boutons. Des ouvriers, vêtus de redingotes
était coiffé de casquettes de drap. On voyait au cou, çà et là, des cravates et des foulards de couleur, mêlant leurs tons bigarrés dans le sombre cortège qui s'avançait sous le ciel gris. Et l'avalanche humaine descendait la grande côte, les souliers ferrés glissant sur les pavés pointus de la chaussée inégale et faisant rejaillir l'eau des gaillots formés par les dernières averses. Au petit père, les canuts étaient 1000. Aux capucins, 2000. Il y en avait encore à la porte de la Croix-Rousse, quand les premiers touchaient à la place des terreaux, où une vingtaine de gones se mirent à les suivre. Ils prirent la rue Lanterne. Au bruit rythmé des pas, toutes les portes des boutiques, toutes les fenêtres s'ouvrirent. La grande nouvelle courait comme une traînée de poudre. Les canuts descendaient. Ils allaient à la préfecture. Dans la rue Mercière, les commis, la plume à l'oreille, se précipitaient dehors, entraînant les demoiselles de magasin, et leur soufflaient dans l'oreille de méchantes plaisanteries sur le costume des vieux canuts qui passaient. Et les petites folles chatouillées d'aise riaient sournoisement. Aux fenêtres, des visages ahuris paraissaient. Des têtes inquiètes, penchées, regardaient rouler ce torrent humain qui noircissait la rue et toujours grossissait. Que voulaient-ils, ces pauvres canuts? Qu'allait-il se passer, grand Dieu? Ce n'était pas une émeute qui leur donnerait du pain à ces pauvres gens. Avec un sourd cadencement de pas, le défilé continuait, pressé entre deux haies de curieux et sillonné par des volées de gones. La tête du cortège avait disparu vers la place de la préfecture. Peu à peu, les rangs s'éclaircirent. Des intervalles séparaient les derniers groupes. Les retardataires couraient pour rejoindre la colonne, au milieu de la gaieté moins contenue des commis et des demoiselles de magasin. Derrière les manifestants, la foule accourue se referma, et, pêle-mêle, avec des poussées et des cris de femmes, se précipita en troupeau. Déjà, la place était envahie. Sous le ciel brumeux de cette triste journée d'octobre, c'était un flot de faces blêmes, ondulantes, avec un grondement prolongé. Au-dessus des têtes, devant la grande façade noire de la préfecture, flottait le drapeau des canuts. Et autour, à chaque fenêtre, se montraient de nouveaux visages anxieux. À la hâte, les gardiens avaient fermé les grilles de l'hôtel. Les ouvriers protestaient.
« Nous ne sommes pas des révolutionnaires, bon Dieu !
Dirait-on pas qu'on veut assassiner le préfet ?
Allez, laissez-nous entrer !»«
Vos délégués seulement. Où sont vos délégués ?»«
Les délégués !»
appelèrent des voix.
« Les délégués !»
Un à un, lentement, les délégués se dégagèrent de la foule et s'avancèrent. Il y en avait de vieux, de jeunes, de vigoureux, de chétifs. Tous étaient graves. Le visage changé par l'émotion, les mouvements comme paralysés.
« Y sommes-nous tous ?» demanda une voix.
Ils étaient 12. C'était le comte. La grille se rouvrit pour les laisser entrer. Les manifestants qui stationnaient au milieu de la place, ne comprenant pas ce qui se passait, s'impatientaient. À ce moment, ils firent une énorme poussée qui précipita les premiers rangs à la suite des délégués.
« Arrêtez, arrêtez !»
criaient violemment les gardiens, rouges des efforts tentés. Mais la poussée était irrésistible. Le flot s'engouffrait sous le large portail, entraînant les curieux aventurés sur la place. Des femmes se faisaient écraser contre les grilles. Un garçon boulanger, sa corbeille sur la tête, dut, bon gré mal gré, suivre le courant jusque dans la cour de la préfecture. Les vastes cloîtres de l'ancien couvent des Jacobins s'emplirent en un instant. Les gardiens s'étaient vivement frayé passage et, avec irritation, répétait très haut. « Vous ne deviez pas entrer, vos délégués seuls en avaient le droit !»
Et, fendant la foule, ils coururent se poster au pied de l'escalier qui conduisait aux appartements de monsieur le préfet.
« Si le préfet n'est pas content, il le dira, pardi !»
grommela un tisseur aux larges épaules, l'air violent, avec une barbe noire qui durcissait ses traits.
« Tais-toi, Buisson, tais-toi donc !» dirent ses voisins.
Un grand silence s'était fait. Sur le perron, M. Bouvier du Molard venait de paraître, escorté de ses secrétaires généraux. Tous les yeux se fixèrent sur lui. Sa tête fine, avec de courts favoris et un grand front nu qui semblait d'ivoire sous le jour terne, son regard calme, le ruban rouge brillant à sa redingote boutonnée, inspirèrent un respect à cette foule. Tous se découvrirent.
« Eh bien, mes amis, »
demanda le préfet très à l'aise,
« qu'est-ce qui vous amène ?»«
Nous voulons notre droit !»
cria le tisseur à la barbe noire.
« Oui !»
appuyèrent plusieurs voix.
« Nous voulons nous faire rendre justice. On se moque de nous !»
Une rumeur courut dans la foule. Le plus grand nombre désapprouvait les violents et leur imposait silence.
« Voyons donc !»
reprit M. Bouvier du Molard avec un léger signe d'impatience.
« Que désirez-vous, juste ? Vous avez choisi des délégués, sans doute. Qu'ils s'expliquent. »
Il y eut un mouvement parmi les plus rapprochés du perron. Les délégués s'avancèrent et parurent se concerter.
Nerbolier ? Favre ?
Non, Jacquemin.
Oui, oui, Jacquemin. Parlez, père Jacquemin. Vous êtes le plus âgé, ça vous revient. »
Mais le vieux tisseur résistait. Il ne pourrait jamais dire ce qu'il faudrait. Il ne savait pas parler.
« Veuillez approcher, » dit le préfet.
Alors, poussé par les épaules, suivi des autres délégués, Jacquemin, tremblant, gravit les marches qui conduisaient au perron. À côté de M. Bouvier du Molard, il parut très petit, ses longs cheveux blancs encadrant son visage très pâle. Dans un recueillement d'église, le vieux tisseur porta la main à sa haute cravate noire qui semblait l'étrangler. Puis, d'une voix émue, il commença.
« Monsieur le préfet, tous ici présents, maîtres et compagnons, nous sommes de pauvres ouvriers en soi qui venons exposer notre triste situation. Il y a de longs mois, monsieur le préfet, que nous ne gagnons pas notre vie. Les fabricants ont d'abord baissé les salaires. Nous avons pris patience. Nous avons continué à travailler sans nous plaindre, pensant que c'était un mauvais moment à passer. Mais la crise s'est prolongée. On s'est privé de tout, on a économisé sur le nécessaire. La saison d'été n'a pas amené la reprise qu'on espérait, et voilà que les fabricants ont encore rogné sur les salaires. Alors, la misère est devenue plus grande encore, monsieur le préfet. Il a fallu, pour vivre, aller au Mont-de-Piété. Les montres, les chaînes, les hardes, sont partis peu à peu. Bientôt, tout y aura passé. Mais que ferons-nous après? Il ne nous restera plus qu'à mourir de faim?
L'administration, interrompit le préfet, connaît vos souffrances et y compatit vivement. Mais ce n'est pas elle qui peut vous procurer du travail, vous le comprenez bien.
Nous ne demandons pas du travail, monsieur le préfet, reprit le vieux tisseur d'une voix plus forte et plus assurée.
« Nous n'en manquons pas. Les métiers n'ont pas cessé de battre. Au contraire, nous peinons du matin au soir et, souvent, nous prenons sur le sommeil pour allonger les journées.
Mais, malgré tout, monsieur le préfet, nous n'arrivons pas à faire vivre nos familles. Les salaires sont dérisoires et, si ça dure, nous ne gagnerons plus même l'eau que nous buvons.
« C'est la vérité !»
s'exclamèrent des voix au milieu d'une rumeur aussitôt apaisée.
Le vieux tisseur reprit.
Ce que nous demandons, monsieur le préfet, c'est l'augmentation des prix de façon. Nous ne voulons pas l'impossible. Nous savons bien que nous ne pouvons pas obtenir les mêmes prix dans les mauvaises comme dans les bonnes saisons. Mais quand les affaires ne vont pas, les fabricants devraient se mettre un peu à notre place et comprendre que nous souffrons, plus qu'eux, de la crise.
Dans tous les cas, ce serait mal à eux de spéculer sur notre pauvreté et d'accroître leurs bénéfices en réduisant nos salaires. Je ne dis pas que tous fassent ce calcul, non. Mais il y a des maisons qui gâtent le métier pour avoir des commandes à tout prix. Et alors les autres sont obligés, par la concurrence, de diminuer aussi les façons.
« C'est ça, monsieur le préfet,
c'est bien ça !»
dirent quelques tisseurs. Monsieur Bouvier du Molard, très attentif, écoutait ce petit vieillard avec une sympathie croissante. Et, dans la grande cour d'honneur, aux murs noircis par les longs brouillards, la voix de Jacquemin, tout à l'heure grêle et tremblotante, qu'il entendait lui-même avec surprise, comme si c'eût été celle d'un étranger, montait maintenant, vibrante, entraînée par la conviction de la cause qu'il défendait, et s'étendait jusqu'au fond des cloîtres, semant dans tous ses cœurs d'ouvriers une émotion et une espérance. Elle redisait les longues privations, les souffrances patiemment supportées, l'honnêteté de cette population laborieuse et fière, l'intelligence et le goût de ces ouvriers qui étaient presque des artistes. Enfin, l'appréhension d'un rude hiver et d'une misère générale. Toutes ces choses, le vieillard les exprimait sans ordre, comme elles lui venaient, avec son expérience, avec toute son âme. Et tous le regardaient, étonnés qu'il parlât si bien. Enfin, la voix de Jacquemin se fatigua. Des larmes lui montaient aux yeux. Il fallait finir.
« Dans ces conditions, monsieur le préfet, conclut-il, nous ne voyons qu'un remède. C'est un tarif raisonnable pour les prix de façon. Voilà pourquoi nous sommes venus vous supplier d'intervenir auprès des fabricants pour nous faire obtenir ce tarif. Nous avons entièrement confiance en vous, monsieur le préfet. Et c'est avec bon espoir que nous vous abandonnons le soin de nos intérêts. »
Il s'était tu. Un grand mouvement se faisait dans la foule. Les regards échangeaient une lueur de contentement. Tous ces hommes se sentaient comme soulagés d'un poids. On les avait dites, enfin, ces choses amassées depuis si longtemps au fond de leur poitrine. Mais déjà, une voix s'élevait franche et sonore. Le préfet répondait.
Mes amis, je suis profondément touché de l'exposé de votre situation et des plaintes que je viens d'entendre par la bouche de l'un de vos vétérans. J'accueille avec empressement vos réclamations et je prends l'engagement de faire tout ce qui dépendra de moi pour l'amélioration de votre sort, qui est l'objet de la constante sollicitude du gouvernement.
Des applaudissements retentirent à ces mots, tandis que, aux fenêtres de la grande cour, des employés des bureaux se montraient, recueillant avec respect les paroles de monsieur le préfet. Le geste ample, l'éloquence aisée, monsieur Bouvier du Molard poursuivit, développant des idées libérales. Les travailleurs étaient les forces vives du pays. C'était eux qui le faisaient si prospère, qui lui donnaient dans le monde sa puissance et sa grandeur sans égale. Dès lors, comment le gouvernement du roi se fût-il désintéressé des souffrances d'une grande population ouvrière? N'était-il pas son protecteur naturel? Aussi, les travailleurs avaient-ils le devoir de venir à lui avec confiance, aux heures de crise, et de ne jamais céder aux mauvais conseils de la faim. Puis, le préfet aborda la question du tarif.
« Ce tarif que vous sollicitez, il ne faut pas qu'il semble avoir été conquis par la violence. J'entends laisser aux deux parties le temps d'en discuter les bases et de le régler dans l'intérêt de tous. La publication devra donc en être renvoyée à quelques jours. Jusque-là,
ne compromettez pas votre cause. Retournez à vos travaux, comme de bons ouvriers et de bons citoyens. Choisissez des délégués. Les fabricants nommeront les leurs. J'inviterai le conseil municipal, la chambre de commerce et la chambre des prud'hommes à assister à la discussion des façons entre les divers intéressés. Et, aussitôt que l'accord sera établi entre eux, le tarif sera publié. Je vous le promets. À ces mots, un immense cri de « Vive le préfet !» retentit, mêlé d'applaudissements. « Vive le roi !» répondit M. Bouvier du Molard. Les canuts répétèrent « Vive le roi !» tandis que le préfet, serrant la main du vieux tisseur qui lui avait adressé la parole, se retirait. Peu à peu, lentement, la foule s'écoulait, bourdonnante, et débouchait sur la place. Devant le perron, des ouvriers se pressaient, complimentant Jacquemin, le remerciant avec effusion. « Si l'on obtenait le tarif, disait-il, ce serait à lui qu'on le devrait, à coup sûr. » Et des poignées de main s'échangeaient, des figures souffreteuses s'illuminaient. Maintenant, la crise leur semblait terminée. Gêné de ces démonstrations, Jacquemin prit le bras d'un tisseur et l'entraîna. « Eh viens, Favre, partons, dit-il, partons vite. » Ils se glissèrent entre les groupes qui, de nouveau, encombraient la place de la préfecture dans un brouhaha de conversation. Les deux hommes entendaient, au passage, des lambeaux de phrases. Tous commentaient ce qui venait de se passer. Le nom de Jacquemin était dans toutes les bouches. Ils pressèrent le pas. Le vieux tisseur avait hâte d'échapper à cette cohue. « On ne peut pas remuer ici, » dit-il. « De quel côté vas-tu, Favre ?»« Je remonte à la Croix-Rousse. »« Moi, je vais place Croix-Paquet. »« C'est mon chemin, je vous accompagne. » À l'extrémité de la place, Jacquemin fut reconnu. On se le montrait, on l'acclamait. On allait l'entourer. Quelques-uns, plaisantant, parlaient de l'emporter en triomphe. Mais des sergents de ville dispersaient les groupes.
« Circulez, circulez » criaient-ils.
Déjà, la foule refluait vers les rues adjacentes. Favre poussa Jacquemin dans le passage de Largue. On les avait perdus de vue, ils ralentirent le pas. Comme ils traversaient la rue de l'hôpital, presque déserte, un homme vêtu de noir qui venait derrière eux passa rapidement, détournant la tête. « Tiens, dit Favre, votre frère Victor, le fabricant, qui vient de voir la manifestation. Il a passé bien fier. Seriez-vous brouillé ?»«
Oui, avoua péniblement Jacquemin. Il y a tantôt 2 ans.
Pour gagner le quai Bon Rencontre, ils prirent la rue de Jussieu, étroite et sombre. Après un gros soupir, le vieux, la tête basse, expliqua enfin les motifs de sa brouille dont il ne parlait à personne. À l'époque, il avait encore un métier de façonner, battant pour son frère. Il venait de faire un montage qui lui coûtait gros et il se trouvait gêné. Il était donc allé trouver Victor et lui avait demandé une avance de 400 ou 500 francs. Mais Victor avait refusé net. Lui non plus, à l'entendre, n'avait pas d'argent. Tout fabricant qu'il était, il ne roulait pas sur l'or. Puis, il s'était plaint des dépenses excessives de sa femme, de son train de maison, des sommes qu'elle lui avait fait mettre en réparation à sa campagne.
« Je ne l'ai pas supplié, » continua Jacquemin. « Je suis trop fier, tu sais. Je suis parti sans insister. »
Mais ça a dû lui donner un remords, vois-tu. Depuis ce temps, nous ne nous sommes plus reparlés. Et quand nous nous rencontrons par hasard dans les rues, nous passons l'un près de l'autre sans nous connaître, comme 2 étrangers.
Ils étaient arrivés sur le quai. Un instant, ils marchèrent en silence le long des boutiques d'antiquités
et des étalages de vieux livres. Favre tortillait sa moustache. Il ne revenait pas
de ce qu'il venait d'apprendre.
Brouillé, deux frères, et refuser 400 francs à son aîné quand on a réussi et qu'on est riche. Il fallait qu'il eût bien mauvais cœur, cet homme. Pff, un fabricant. Jacquemin souffrait des réflexions de son camarade. Il ne voulait pas qu'on dît du mal de son frère. « C'était tout de même dur pour moi, » reprit-il avec intention, « de faire des frais pour un montage et de ne tisser qu'une pièce de 60 mètres. J'en étais du mien. Lorsque j'ai rendu ma dernière coupe, le commis m'a réglé et m'a dit que ce dessin était fini. Ce n'était pas vrai. Le lendemain, il donnait à d'autres des pièces de 100 mètres et plus à faire sur le même patron. 4 heures avaient sonné à l'horloge de l'Hôtel-Dieu. À cette fin d'après-midi d'automne, le ciel s'était éclairci peu à peu. Un pâle soleil perçait la brume, et sur l'autre rive du Rhône, doraient les feuilles rousses restées aux tilleuls. « De quel commis parliez-vous ? » demanda Favre, distrait. « De Pellegrin, celui qui fait la ronde. » Un bruit de voix les fit se retourner. Derrière eux, venait une 30aine d'ouvriers remontant aussi à la Croix-Rousse. Les deux tisseurs traversèrent le quai pour les éviter et se mirent à cheminer lentement sous les arbres, faisant bruire sous leurs pas les feuilles mortes. « Pellegrin ? » reprit Favre avec un plissement des sourcils. « Ah, ça ne m'étonne pas de sa part. C'est un ambitieux, ce garçon-là. Il est dur avec nous autres. » Histoire de faire sa cour à son patron. Je l'ai connu tout gonne. Sa mère était marchande d'herbe, en rue Vieille-Monnaie. Il entra dans les détails. La pauvre femme s'était saignée aux 4 veines pour élever ce fils, qui était intelligent, pour lui donner de l'instruction. Mais lui, une fois employé de fabrique, avait fait le monsieur, s'était habillé comme un marquis, et avait quitté la vieille, pour aller demeurer ailleurs. Elle était misérable, et lui, qui gagnait bien sa vie, ne lui donnait pas un sou. C'était un mauvais fils. Il la méprisait. Il avait honte, oui. Honte de sa mère. Il longeait maintenant le quai de Retz. À l'entrée du pont Lafayette, passèrent de nouveaux groupes d'ouvriers. Les diligences pour le Dauphiné stationnaient encore, attendant l'heure du départ. Au milieu de l'agitation des voyageurs, les garçons des messageries chargeaient les bagages et le conducteur, la casquette sur l'oreille, en sifflant, une mèche neuve à son fouet, tandis que les chevaux, la tête enfouie au fond de leur musette de toile, finissaient leur picotin. Dans le grondement du Rhône, qui brisait au-dessous d'eux contre les arches du pont ses eaux accrues par les pluies, Favre rompit de nouveau le silence. « Père Jacquemin, c'est ce garçon-là qui vous a brouillé avec votre frère ? Il vous a refusé de l'ouvrage pour le débarrasser de vous ? J'en donnerais ma tête à couper. » « C'est bien possible. » « Et puis, voyez-vous, ricana l'ouvrier, quand on s'appelle Monsieur Victor Jacquemin, fabricant de nouveautés, ce n'est pas drôle de voir venir à son magasin un vieux canu mal habillé qui vous tutoie devant le monde. » Le vieillard garda un instant le silence. Puis, d'un ton navré, il répondit. « Que veux-tu, Favre ? Il vaut peut-être mieux que nous soyons brouillés, mon frère et moi. Nous ne sommes plus de la même condition. » Alors, remontant vers le passé, il raconta sa vie. 65 ans depuis la Saint-Pierre. 55 qu'il travaillait. Son père était gêné à l'époque. Ça ne battait pas fort. Lui n'avait pas traîné longtemps à l'école. Il lui avait fallu gagner sa vie tout de suite. Quant à Victor, il était venu 14 ans plus tard. Après la Révolution, les affaires avaient repris. Tout le monde portait de la soie à Paris sous le Directoire. On avait eu bien vite des avances.
Victor avait été mis en pension pendant plusieurs années avec des fils de bourgeois. Il avait bonne tête et apprenait tout ce qu'il voulait. Ensuite, le père l'avait placé chez un fabricant. Avec son intelligence et son instruction, Victor avait fait son chemin. Une fois chef de service, il avait épousé la demoiselle de M. Chambry, le gros marchand de remises de la rue du Commerce, qui lui avait apporté de l'argent. Ah, on avait fait une belle noce. Et 2 ans après, il s'était mis à son compte. Favre avait écouté, sans interrompre, cette histoire entendue 20 fois. Jacquemin se complaisait dans des détails. Ses souvenirs lui faisaient oublier les tristesses du présent. « Maintenant, reprit-il, poursuivant sa pensée, le voilà heureux. Il a une demoiselle, bientôt bonne à marier. Tout lui a réussi à mon frère. Quant à moi, qu'annus j'ai vécu, qu'annus je mourrai. Mais je n'ai jamais fait tort à personne. On ne peut pas dire le contraire. Oh, pour ça non, père Jacquemin. Il n'y a pas plus brave homme que vous à la Croix-Rousse. Et on le sait bien. On vous l'a bien montré tout à l'heure. » La nuit tombait déjà lorsqu'ils arrivèrent à la place Croix-Paquet. Des gens affairés la sillonnaient, les uns montant, les autres descendant. C'étaient des acheteurs circulant d'une maison de soierie à une autre. Des marchands de soie allant offrir aux fabricants leurs grèges ou leurs organsins, des commis de ronde rentrant au magasin, harassés des étages montés et descendus, des ouvriers venant vendre leurs pièces, des dévideuses portant des balles de roquet, des rendeurs de teinturiers et d'apprêteurs pliant sous le poids d'énormes ballots ou conduisant leurs lourds camions gardés par un petit chien. Un ouvrier, qui sortait d'un magasin la sache au dos, salua les deux tisseurs, sans s'arrêter. « Je viens de chercher de la trame qui me faisait faute, » leur cria-t-il en passant. « Tiens, Nerbolier, » dit Favre, « c'est bien le premier taffetier du quartier Saint-Georges. » À ce moment, un grand garçon coiffé d'une casquette s'avança, portant sous le bras une pièce sur rouleau et tenant à la main une cheville de bois. « Bonjour, père. Bonjour, monsieur Favre, » dit-il essoufflé. « Te voilà déjà, Marius ? Et je sais que vous avez parlé, père, et qu'on voulait vous emporter en triomphe. » « C'est bon, c'est bon. Qui est-ce qui t'a raconté ça ? Des bêtises. » « Ça se dit par toute la Croix-Rousse. » « Allons, va rendre la pièce. L'as-tu bien pincetée avant de descendre ?»« Oui, père. Le patron n'aura rien à dire. Mais je n'ai pas envie de reprendre de l'ouvrage avant la signature du tarif. Qu'en dites-vous ? » « Tu as raison, » dit le vieux après avoir réfléchi. « Faut voir venir. Allez, va vite, je t'attends là. Nous remonterons ensemble. » Sur la place, par petits groupes, des tisseurs, les bras croisés ou les mains dans les poches, causaient des affaires. Favre et Jacquemin s'approchèrent pour écouter. Un chef d'atelier parlait. « Comment voulez-vous consentir ? » disait-il. « Moi, je fais des châles. Le fabricant me paie le châle, 3/4 corps plein, 25 centimes le mille. L'ouvrier, en travaillant comme un massacre, ne peut en passer par jour que 12 000, ce qui fait une journée de 3 francs à partager entre le maître et l'ouvrier. Il faut déduire 7 sous pour l'enfant qui lance avec le compagnon, 10 sous pour la femme qui dévide et met les trames en canette, plus 5 sous pour les autres frais du métier. Le bénéfice du maître est donc réduit à 8 sous par jour. Comment voulez-vous vivre avec ça ? Et quand le maître ne peut s'en tirer, comment l'ouvrier peut-il faire ? Ajouta un petit compagnon maigre avec des cheveux rouges. Tu as raison, Salavin. Si j'étais délégué, je demanderais que le minimum de cet article fût porté à 8 sous le mille. Il faut pourtant manger du pain. Moi,
dit un veloutier se dandinant. Je n'ai pas trop à me plaindre. Nous sommes assez bien payés, nous autres. Ceux qui font les brocarts et les autres étoffes riches peuvent en dire autant. Mais ce n'est pas la faute des fabricants. S'ils nous paient bien, c'est que les bras manquent pour ce genre de fabrication. Un bon veloutier ne se fait pas en un jour. C'est si vite fait de mettre sa pièce derrière d'un mauvais coup de rabot. Mais je vois mes voisins qui font des petits unis de la saloperie d'étoffe. Les pauvres bougres me font de la peine. Ils ont beau se lever à la pique du jour, taper à tire-larigot, veiller jusqu'à 11 heures à la lampe, ce qui est encore une dépense, et ne descendre de leur métier que les bras cassés, ils n'arrivent tout juste qu'à gagner 18 sous. Chance encore, si le remondage ne leur fait pas perdre 2 heures de la journée. En ce cas, les 18 sous...
Une sonnerie de clairon lui coupa la parole. C'était un piquet de fantassins, relevé de garde à l'hôtel de ville et regagnant sa caserne du Bon Pasteur par la rue des Capucins. Aiguillonnés par l'appétit, les soldats, à grandes enjambées, marchaient à l'assaut de leurs gamelles.
« Ceux-là, au moins, dit un farceur, ne sont pas en peine de leur soupe. »
Quelques-uns riaient. Petrus Salavin reprit tristement.
« Ah, si je n'avais pas femme et enfant à nourrir, il y a beau temps que j'aurais changé la navette contre le flingot. »
Un silence s'était fait, pendant lequel on entendait, apporté par le vent d'ouest, le son grêle du clairon s'éloignant, pareil à une plainte.
« Je sais bien, continua le chef d'atelier, les compagnons ne sont pas à la joie, eux qui n'ont que leurs bras. J'ai vu de bons ouvriers dans le temps gagner de 4 à 6 francs par jour. Et aujourd'hui... Mais les maîtres ont la charge du loyer, chaque jour plus forte, les montages des métiers, qui changent sans cesse. Jadis, on travaillait 2 ans, des fois plus, sur le même montage. À présent, on est content quand on a tiré 100 tonnes sans mettre son métier en déroute. Le magasin vous fait attendre, tantôt le dessin, tantôt la trame. On perd du temps entre chaque pièce, et on mange ses pauvres avances. Oui, si le compagnon n'est pas à la joie, le maître peut bien aussi se ronger les poings.
Marius avait rejoint son père.
« Partons-nous ? » dit-il ennuyé.
« Oui, partons, » dit Jacquemin. Une amertume de nouveau lui serrait le cœur. Il voulait la dissiper. Les 3 hommes reprirent leur chemin, traînant le pas sur les pavés pointus qu'un léger brouillard humectait. À toutes les fenêtres des hautes maisons, du rez-de-chaussée au 5e étage, les lampes s'allumaient derrière les écrans verts des magasins. Dire qu'ils se brassent des millions là-dedans, et que les pauvres canuts sont si misérables, s'exclama Favre avec un geste de découragement.
C'est vrai, répondit le vieux. Mais si les millions passent là, ils n'y restent pas. Enfin, le bon temps viendra peut-être. Il ne faut pas se faire de mauvais sang.
Favre parla d'autre chose. Il fit observer qu'il était trop tard pour se remettre au travail et proposa d'aller boire un coup chez Bresner. Mais Jacquemin ne voulait pas.
« Bresner est trop républicain, dit-il. Moi, je m'occupe de mon métier. Je laisse la politique à ceux qui n'ont rien à faire. »
Favre abonda dans son sens.
De la politique, il n'en faisait pas non plus, lui, Dieu merci.
Et il renchérissait sur ce qu'avait dit Jacquemin. S'il allait chez Bresner, c'était pour se tenir au courant des façons, pour y voir des tisseurs. Les 3 hommes avaient gravi la côte Saint-Sébastien, longé la rue du Commerce et traversé le jardin des plantes dont le gardien fermait les portes. Ils s'engagèrent dans la rue Tolosan. Favre s'arrêta devant une porte vitrée aux carreaux malpropres. C'était là, chez Bresner. Jacquemin prétendait continuer sa route. Sa bourgeoise serait inquiète. Mais Favre, qui avait ouvert, le poussa par les épaules dans le cabaret.
« Entrez, entrez donc, dit-il, c'est moi qui paie. »
C'était une longue salle,
avec deux rangées de tables en noyer et des escabeaux. Deux quinquets fumeux brûlaient, mêlant leur odeur âcre à celle du tabac. Dans cette atmosphère lourde, des ouvriers buvaient, parlant encore de la manifestation et discutant le tarif. Au comptoir, tout au fond, Madame Bresner penchait sur un interminable tricot, son visage anémique. Favre s'assit à une table libre près de la porte. Et comme personne ne bougeait, il frappa du poing.
« Voilà !»
répondit une voix maussade. Un gros homme portant un tablier bleu taché de vin se leva comme à regret. On interrompait constamment sa partie. Mais il venait de reconnaître Favre, un habitué. Il disparut dans la cuisine et revint lourdement avec un pot de grès et trois verres qu'il déposa sur la table.
« Salut, messieurs, » murmura-t-il.
Et, bourrant sa pipe, il s'assit à côté de Favre dans le passage.
« Je vous présente Monsieur Jacquemin, » dit Favre très fier. « Celui qui a parlé au préfet. Il s'en est bien tiré. »«
Ah !» fit Bresner, carrant ses épaules. « Vous êtes un bon citoyen, alors. Vous me permettez de vous serrer la main ?»
Et comme le vieux tisseur avançait le bras avec un peu de méfiance.
« Mais voyons, » reprit le cabaretier l'air dédaigneux, « y croyez-vous à votre tarif ? Des bêtises ! Il n'y aura pas de tarif qui tienne. Les canuts sont des moutons, ils se feront tondre jusqu'au cuir. »«
Des moutons ? » dit Favre d'un ton bonasse.
« Il n'y a rien de plus méchant qu'un mouton enragé. »
Sans s'arrêter à cette plaisanterie, Bresner, le teint rouge et la voix grasse, se mit à pérorer pour la galerie, comme il faisait chaque soir, à l'heure de l'absinthe.
« Écoutez-moi bien, » reprit-il avec emphase. « Ceux que vous enrichissez vous regardent comme une race inférieure. Vous habitez pour la plupart des masures sans air et sans soleil, dans des rues sombres, humides. Vous travaillez pêle-mêle dans des ateliers infects, où vous ne buvez que de l'eau, où vous nourrissez de mauvaises soupes, de débris de boucherie. Vos femmes sont flétries à 25 ans, vos enfants portent sur la figure la pâleur de vos nuits sans sommeil. »
« Et dans quel but tout ça ? » continua-t-il en grossissant sa voix.
« Pour que ceux qui vous exploitent aient de beaux appartements, fassent bombance, aient une campagne au bord de la Saône, et en ville, une maîtresse bien entretenue. »
« Alors, » observa Jacquemin avec une pointe de malice, « autant se jeter tout de suite à la mort qui trompe. » Puis, secouant la tête, « Non, » ajouta-t-il, « on n'est pas toujours si malheureux. On sait bien qu'il y a des hauts et des bas dans la fabrique. Quand le commerce marche bien, les commis de ronde se disputent les métiers et les prix de façon augmentent. Tant mieux pour le canut. Quand les commandes diminuent, le fabricant, qui craint d'encombrer ses placards et de laisser dormir son argent, réduit le nombre des métiers. C'est tant pis pour le canut, qui, pour continuer à travailler, est obligé d'accepter des réductions. Ça a toujours existé, et ça existera toujours, voyez-vous. Autrement, les fabricants se ruineraient, et nous n'en serions pas plus avancés.
« Alors, vous ne voyez pas d'autre remède que le tarif ?» conclut Bresner, démonté. « C'est mince !»
À une table voisine, des ouvriers ayant demandé des cartes, la patronne leur avait apporté un piquet graisseux, et, faisant le triage pour un écarté, les joueurs avaient trouvé 6 rois.
« Dites donc, patron, » dit l'un d'eux pour blaguer, « je ne vous croyais pas si royaliste. Ben, réclamez à la bourgeoise. »
La conversation tombait. C'est égal, commença Favre, qui subissait l'ascendant de Bresner et retenait ses phrases. « Faut espérer qu'on se coure à ces tyrannies. Des haines sourdes fermentent, et tôt ou tard, elles s'échapperont en cris de colère. « Bon sang !» s'écria-t-il, frappant du poing sur la table. « Faudra en sortir ou crever !» Par contenance,
Jacquemin sortit sa tabatière et la tendit à Bresner. D'un geste, le cabaretier refusa et, tirant trois grosses bouffées de sa pipe,
« Ce que les fabricants veulent, » reprit-il brusquement, « je vais vous le dire.
Vous forcez à travailler dans des usines, comme à la sauvagère, vous, vos femmes et vos enfants.
Alors,
adieu votre liberté. Vous y entrerez au jour, vous en sortirez à la nuit,
et vous obéirez à la cloche.
Ils vous tiendront par la faim, et ils auront vos filles. » « Ma foi, non !» s'exclama Jacquemin agacé. « Nous avons travaillé libres, et j'espère bien que nos enfants resteront libres, propriétaires de leur métier et maîtres de l'emploi de leur temps. Il n'y a encore que cette usine, la sauvagère, et ils n'ont pas pu la bâtir dans Lyon. Ils y ont amené des paysans de Saint-Rambert et de l'île Barbe. Le jour où nous ne pourrons plus travailler chez nous, il n'y aura plus de canuts, » ajouta-t-il en se levant. Mais le canut sera toujours indépendant, et on ne le casernera pas, soyez-en sûr. Combien vous doit-on, patron ?
Ne cherchez rien, dit Fabre, c'est mon affaire.
Alors, à une autre fois. On se retrouvera, dit le vieux.
Je m'en vais. Vous me feriez perdre la tête. Et, avec un sourire bon enfant,
au revoir à la compagnie.
Il sortit avec Marius. Dehors, il faisait plus noir. Le brouillard était plus épais et plus froid. Le père et le fils redescendirent la rue en silence. Les passants étaient rares. Le pavé glissait. Le vent faisait danser la flamme des réverbères, allongeant leurs ombres contre les maisons. Et là-haut, derrière eux, sur le seuil du cabaret, Bresner criait encore de sa voix enrouée à d'autres ouvriers qui sortaient.
« Souvenez-vous de ce que je vous dis. Pour vous rendre justice, ils attendront que la faim vous ait rendu incapable de vous plaindre. Alors, ils vous égorgeront. »
« C'est un fou, cet homme-là, » murmura Jacquemin, plongeant le menton dans son col et fourrant les mains dans ses poches. « Oui, un fou dangereux.